bienvenue dans CotiCast, la grosse émission, le podcast qui parle de la tech à travers notre quotidien. Je suis Gaëtan et pour ce quatrième numéro, nous allons aborder le sujet de la sécurité informatique. Nous ? Oui, car je ne suis pas seul. Pour cet épisode, j'ai invité Cédric, alias gside_fr sur Twitter, qui a la particularité de s'intéresser de très près à l'informatique. Alors ce n'est pas un spécialiste de la sécurité informatique, mais c'est un sujet sur lequel il est assez en alerte. Vous pouvez également le découvrir ou nous découvrir à travers les émissions de BurgerTech, qui est un autre podcast également en vidéo sur YouTube, où on traite de l'actualité tech, mais là, ce n'est pas du tout le sujet. Salut Cédric, comment vas-tu ?
Bonjour Gaëtan, bonjour tout le monde, ça va bien ?
Merci
d'être présent. J'espère que vous allez tous bien aussi.
Oui, bah, tout le monde va bien. Donc on enregistre cet épisode le 21 août 2019. Je précise, parce que peut-être que dans quelques mois, ce qu'on va raconter, ce ne sera plus d'actualité. Ou au contraire, ce sera plus que jamais d'actualité, à travers une actualité brûlante. Donc voilà, on termine l'été tout simplement. La rentrée approche, donc j'espère que tu as fait ton cartable pour la rentrée.
Oh oui, ça y est, j'ai acheté mes petits crayons et mes petits cahiers.
Bon, parfait. Donc nous allons pouvoir attaquer ce numéro donc, sur la sécurité informatique. Pour la sécurité informatique, le but est de comprendre les risques et de mettre en place les bonnes pratiques sans être un ingénieur en informatique, justement, pour que monsieur et madame tout le monde puissent adapter les bons comportements. Avant toute chose, il faut d'abord identifier les risques. Que risque-t-on à ne pas faire attention à tout ce qui est sécurité informatique ? Cédric, est-ce que tu as quelques exemples ?
Les risques, déjà, doivent s'évaluer par rapport à comment on va utiliser l'ordinateur. L'ordinateur, on y met des photos, des données personnelles, mais on s'en sert également pour communiquer. Donc les risques sont associés à ce qu'on va y faire avec. Donc ça peut être du vol de données ou l'usurpation d'identité en récupérant des informations personnelles pour, je sais pas, ouvrir des comptes bancaires, des choses comme ça. Vous demandez de l'argent, donc détournement de fonds, blocage de l'ordinateur pour vous demander
d'argent.
De l'argent, voilà, un ransomware, ou carrément vous surveiller, vous espionner pour pouvoir vous faire chanter derrière. Alors, pas chanter au micro, hein, chanter avec un genre de mail du genre « on a des vidéos compromettantes, si vous ne voulez pas qu'on inonde votre carnet d'adresses pour montrer certaines choses, donnez-nous des bitcoins ».
C'est ça. Et donc, il faut bien se rappeler que sur votre ordinateur, vous avez généralement une webcam. D'ailleurs, pas que sur votre ordinateur, sur votre smartphone aussi, on en parlera. Vous avez également un ou plusieurs micros. Donc, si votre ordinateur ou votre smartphone est mal protégé, quelqu'un de mal intentionné pourra activer ses webcams sans que vous le voyez ou activer les micros pour enregistrer sans que vous vous en rendiez compte. Donc ça, c'est hyper important. Et effectivement, comme tu l'as bien résumé, c'est que les risques principaux que vous allez avoir, c'est soit vous faire voler des choses, donc vos photos, vos documents importants, et puis voler et voire même supprimer. C'est-à-dire que les gens vont prendre vos données et les supprimer. Ou quelqu'un, alors ce qui est peut-être un peu plus grave et plus compliqué, il y a quelques cas sur Internet, quand ça arrive, c'est très compliqué de s'en sortir, c'est de se faire voler son identité, et quelqu'un va se faire passer pour vous, aussi bien pour ouvrir des comptes en banque, des crédits qu'il ne va jamais payer, mais également pour faire des choses peut-être encore moins sympas au niveau de la légalité.
Dans tous les cas, ça peut vous nuire, et l'objectif d'un pirate, c'est toujours de vous nuire, et généralement, c'est pour avoir de l'argent derrière.
C'est ça, et on se dit toujours, moi je risque rien, enfin j'ai rien à me reprocher sur mon ordinateur, je n'ai pas besoin d'antivirus, je n'ai pas besoin de protéger, tout fonctionne bien et ce qu'il y a dedans, je m'en fous. Sauf que le jour où quelqu'un va prendre votre ordinateur et l'utiliser à votre place pour des choses mal intentionnées, ce qu'on appelle les ordinateurs zombies, vous pouvez vous retrouver, vous, légalement responsable parce que vous n'avez pas suffisamment pris les précautions nécessaires. Alors, je ne vais pas vous faire peur, mais sans prendre les précautions nécessaires pour sécuriser votre ordinateur.
Alors, pas que l'ordinateur, tu parles de PC zombie, en effet. Alors, le PC zombie, rapidement, c'est que quelqu'un peut prendre possession de votre ordinateur, sans que vous le sachiez, et va l'utiliser à des fins malveillantes, soit pour pirater d'autres ordinateurs, ou pour pouvoir faire tomber des serveurs de grandes multinationales, ou également stocker certaines informations le temps de faire autre chose. Mais ça peut être également le réseau Wi-Fi, ça peut être les IoT, donc les objets connectés. Voilà, tout ce qui est dans votre maison et qui passe par votre connexion Internet peut être utilisé à des fins malveillantes.
Exactement. Donc faut pas le but de cet épisode, c'est pas de vous faire peur et de vous dire ça y est, on est foutu, débranchez votre ordinateur, balancez-le par la fenêtre, c'est pas du tout le but. Le but c'est juste de se rendre compte et de prendre conscience qu'il y a certaines petites choses simples à faire qui peuvent éviter de gros problèmes tout simplement.
Ouais, et le meilleur moyen, c'est d'en parler, c'est pas de se masquer. Hein, on va pas faire comme les singes, ne rien voir, ne rien entendre et ne rien dire. Non, au contraire, il vaut mieux en parler que essayer de comprendre. Voilà, il vaut mieux comprendre.
Et justement, on est là pour ça.
Oh oui.
La première chose quand on parle sécurité informatique, c'est l'antivirus. Enfin, la première chose qui nous vient en tête, généralement, c'est fameux antivirus.
Voilà, c'est la chose qu'on essaie de nous vendre en premier.
Généralement, quand on achète un PC, dessus, on a un antivirus qui est installé avec une période d'essai, d'ailleurs, de quelques jours ou quelques semaines. Puis après, derrière, on vous dit, bah, hey, si tu veux continuer à utiliser, passe à la caisse. Et souvent, enfin, je suppose que pas mal de gens ne le font pas. Alors ma question, c'est est-ce qu'un antivirus aujourd'hui, ça reste nécessaire, important, ou c'est juste un petit gadget dont on n'a plus besoin ?
Ah, bah déjà la première question que j'ai envie de te poser, est-ce que tu as un antivirus toi, sur l'un de tes appareils ?
Sur mon PC professionnel.
D'accord, et tu penses qu'il te protège contre quoi en fait ?
Et qu'il me protège ? Non mais moi je connais la réponse ce soir.
Ah non, je sais pas.
c'est pédagogique ce qu'on est censé faire, Cédric. Non, oui, ben il protège contre des fichiers qui seraient mal intentionnés.
Voilà. Éventuellement. Et en effet, ça, oui. C'est ouais, ça. En effet, ça. L'objectif d'un antivirus, le premier objectif avoué d'un antivirus, c'est de se protéger contre des fichiers qui ne rempliraient pas la fonction première. Je viens de télécharger un petit jeu là sympathique, sauf que derrière, il y a un programme qui permet des connexions malveillantes ou qui m'affiche des pubs alors que je suis en train de faire du tableau Excel. Et ben, un antivirus est capable d'analyser le code de ces programmes et de vérifier qu'il n'y ait pas du code malveillant. C'est ce qu'on appelle des signatures de virus. Et c'était ça l'antivirus, l'objectif premier. Alors pourquoi je dis c'était au passé ? Parce que depuis un petit moment, les antivirus se sont étoffés et remplissent plein de fonctionnalités. Que ce soit Avast, Microsoft, Kaspersky, Norton, etc. Ils ont rajouté de nouvelles fonctionnalités. Ils vont analyser les sites que vous visitez, les scripts qui vont s'exécuter dans les sites. Ils vont également s'agrémenter de pare-feu, d'analyse mail, etc., etc. Donc aujourd'hui, le mot antivirus, j'ai envie de dire, n'existe plus en tant que tel. Aujourd'hui, quand vous achetez un ordinateur et qu'on vous vend une solution d'antivirus, en fait, c'est une suite de protection qui remplit tous les objectifs que je viens de dénoncer.
Donc en fait, c'est beaucoup mieux qu'avant. Le logiciel, enfin la fonction du logiciel dit antivirus, est beaucoup plus complète et beaucoup plus intéressante qu'elle ne l'était avant.
Oui, en tout cas, oui, on vous le fait croire.
Ah. Est-ce que juste un antivirus, ça suffit complètement ?
Un antivirus
En termes de protection sur ordinateur, hein, ou est-ce que j'ai besoin de mettre, parce que j'ai vu, je connais aussi les anti-malware, j'ai déjà vu, mm-hmm. Est-ce que ça c'est nécessaire si j'ai déjà un antivirus ?
Eh bien, ça dépend justement sur quoi on veut se protéger. Imaginons, j'ai mon petit NAS là, tranquillement, je dis, bon, est-ce que j'ai besoin d'une suite complète, d'une suite antivirus ? Non, on n'a pas besoin d'une suite antivirus. Un NAS, c'est pour pouvoir stocker des fichiers. Donc, un simple antivirus qui va analyser le code des programmes qui y sont stockés suffit amplement. On n'a pas besoin d'avoir un pare-feu, on n'a pas besoin d'avoir un anti-malware. Que sur un ordinateur sur lequel je surfe, etc., j'ai besoin d'avoir une solution complète parce que je surf, donc j'ai besoin d'être protégé. Donc oui, une suite complète est nécessaire sur un ordinateur, pas sur un NAS par exemple.
D'accord, alors très bien. Et sur les antivirus, il y a aujourd'hui des versions, des solutions gratuites et d'autres payantes. Est-ce que le fait de payer va me garantir une meilleure protection ? Et est-ce que sur du gratuit, je vais avoir à un moment donné un logiciel qui est un peu plus passoire ou pas ?
Alors,
pas forcément.
La différence ne va pas jouer sur l'antivirus en lui-même. La base de signature, telle que je vous l'ai décrite tout à l'heure, est commune à tous les éditeurs, qu'ils soient payants ou gratuits. Voilà, c'est les mêmes signatures. De toute façon, j'ai envie de dire, quelque part, ils se battent pour la même cause. Donc, voilà, ils ont les mêmes formules de base. Donc, la différence va se jouer après sur les protections complémentaires. Donc, si vous avez un antivirus gratuit, il est aussi performant que le payant pour la fonction antivirus. Par contre, le payant va vous proposer des solutions plus qui vont peut-être vous être utiles ou pas. Donc, c'est là-dessus qu'il va falloir faire son choix et non sur la partie antivirus elle-même.
D'accord, donc c'est par rapport aux usages que j'ai sur mon ordinateur. Je vais voir ce que me proposent comme solution les différents antivirus et je vais voir s'il y a des choses qui dedans me parlent ou pas.
Exactement. Il y a des antivirus qui vont te proposer un pare-feu, par exemple, une fonctionnalité pare-feu. Sauf que la fonctionnalité pare-feu, elle est déjà intégrée, par exemple, à Windows. Donc, est-ce que je vais avoir besoin d'un double pare-feu ? Non, ce n'est pas parce que vous allez avoir deux pare-feux que vous allez être mieux protégé. Des pare-feux, ce n'est pas des portes blindées. Un pare-feu, c'est de dire oui, tu as le droit de rentrer ou pas. Et on ne peut pas défoncer cette porte. Donc, quand tu as un pare-feu, tu n'as pas nécessité d'en avoir deux.
D'accord, oui, il y a quelques, des petites subtilités comme ça.
C'est ça.
Bon, donc si je veux un peu plus d'informations, je vais m'enseigner un peu sur les sites, les blogs, les choses comme ça, qui vont me donner un peu plus de détails sur les virus, les antivirus à utiliser ou les mieux notés, les mieux cotés. Sachant que de toute façon, ils sont mis à jour régulièrement, voire en quasi temps réel.
C'est ça. Et celui qui était numéro 1 hier sera peut-être numéro 2 ou numéro 3, parce que celui qui était numéro 3 a réussi à détecter le plus vite des nouveaux virus qui va devenir numéro 1. Donc en fait, il n'y a pas de bon tiercé. Le tiercé change tous les jours en fait.
Oui, c'est ça. Donc l'antivirus, ça ne nous garantit pas à 100% de protection. On peut toujours tomber sur un virus qui n'a pas encore été, qui est tout beau, tout neuf, et on tombe dessus directement. Bon, je pense que si on tombe là-dessus, c'est que peut-être on était pas au bon endroit. Et ça, c'est un autre sujet.
C'est ça.
Très bien pour l'antivirus. La deuxième chose importante concernant la sécurité informatique, et des choses toutes simples et toutes bêtes, c'est la mise à jour de son système d'exploitation. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le système d'exploitation ? Ben, c'est tout simplement Windows, macOS, ou Linux, ou Android, si on est sur un smartphone, ou sur iOS, pardon, si on est sur un iPhone. Ces mises à jour vous sont souvent proposées, et on vous le rappelle assez régulièrement, petite fenêtre en bas à droite, par exemple sur Windows, mise à jour à faire, mise à jour à faire, mise à jour à faire, et on ne la fait pas parce qu'il faut redémarrer, je la ferai demain, je la ferai demain, je la ferai demain. Est-ce que c'est important de la faire régulièrement, Cédric, même si c'est déjà dans ma question?
Oui et non. C'est un peu plus... Ouais, c'est pas si simple. Alors, bien sûr qu'il faut mettre à jour son OS. Ça, c'est la question à ne pas se poser. Pourquoi mettre à jour ? Parce qu'il y a des failles qui sont corrigées et qui ne sont pas protégées par un antivirus. Même les plus performants ou une suite complète d'antivirus ne protègent pas des failles d'un système d'exploitation. Et il y a aussi, dans les mises à jour du système d'exploitation, et là, ça devient plus compliqué, des ajouts de fonctionnalités ou des suppressions de fonctionnalités. Donc, ça, par exemple, c'est la spécificité de Microsoft.
Ah
Microsoft,
oui.
avec Windows 10, maintenant, ils ont introduit cette notion. Donc, vous étiez habitué à un super programme qui était fourni par Microsoft, et la mise à jour qui vient d'être appliquée vous a supprimé le programme. Est-ce que j'aurais dû faire la mise à jour de l'OS ou pas ? Eh bien, c'est la question qui se pose, donc. Oui, mettez à jour votre OS, la fonctionnalité qui vient de disparaître, et ben, essayez de la trouver ailleurs. Mais voilà, oui, mettez à jour papier.
Tu m'as fait peur.
Non, mais je le dis sérieusement parce que j'ai des connaissances qui sont informaticiens et qui ne veulent pas mettre à jour leur OS à cause de ces spécificités de mise à jour qui suppriment des fonctionnalités.
Oui, alors s'il y a des mises à jour de système d'exploitation, tu dis OS, c'est un système d'exploitation, Operating System, exactement. S'il y a des mises à jour qui sont faites régulièrement, ce n'est pas parce que le logiciel qui vous a été vendu ou installé sur votre ordinateur n'était pas fini, c'est qu'en fait, ça évolue en permanence et il y a un jeu du chat et de la souris perpétuel pour trouver en fait des nouveaux points faibles, ce qu'on appelle des failles, pour mettre en péril la sécurité du système d'exploitation. Donc c'est pour ça que dès qu'une faille est trouvée, c'est corrigé en permanence.
C'est ça. Pour l'anecdote, Windows 98, normalement, sa mise à jour a été arrêtée il y a, je crois, un peu plus de 10 ans. Elle a été réactivée récemment à cause d'une faille assez critique, assez sévère. Et donc, ils ont réactivé les mises à jour pour combler cette faille. Comme quoi, on ne rigole pas avec les mises à jour des systèmes d'exploitation.
Alors, c'est la question que j'avais posée. Est-ce que je suis sous Windows XP, Enfin, pas moi, mais est-ce que j'ai un Windows XP? Quoi que, non. Si? Non, je ne sais plus. J'ai un Windows XP. Est-ce qu'aujourd'hui, il fonctionne bien? Est-ce que j'ai tout intérêt? Ou un Windows Vista? Je pense notamment à mon père. Bonjour papa. qui ne veut pas faire de mise à jour. Non, non, ça marche bien, je m'en fous. Si jamais il écoute ce podcast, est-ce que... il doit le demander à son fils de lui changer. Parce que je sais comment ça va se passer.
Alors, aujourd'hui, on ne peut pas se passer d'Internet. Du moment où on communique donc avec Internet, la 4G, etc., oui, il faut absolument mettre à jour. Donc, XP ne se met pas à jour. Donc, on est obligé de changer de version d'OS, donc à passer à Windows 7. Quoique, la mise à jour va bientôt s'arrêter en 2020.
Aussi, oui.
Donc, voilà. Donc, passer à Windows 10. J'ai envie de dire, c'est une hygiène informatique. On est obligé de se mettre à jour. Et dès que la mise à jour est terminée, il faut passer à la version suivante.
Alors, sachant que sur Windows, jusqu'à Windows 10, effectivement, c'était payant. Il fallait payer pour remettre à jour une nouvelle version, acheter un nouveau Windows. Aujourd'hui, avec Windows 10, ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est gratuit. Donc, plus que jamais. Ou alors, c'était gratuit pendant un an, je crois, le passage à Windows 10. Mais on trouve aujourd'hui les licences pas chères. Et une fois que vous êtes Windows 10, vous êtes content. Vous êtes content. Vous êtes surtout, oui, content, mais surtout tranquille par rapport aux futures mises à jour, puisque c'est prévu à être évolutif gratuitement.
C'est les éditeurs généralement qui se frottent les mains, parce que quand il y a un changement de système d'exploitation comme ça, comme les Windows, si vous êtes sur un vieux Windows et vous êtes content d'un programme, vous changez de Windows, donc vous dites mince, ça va me coûter de l'argent pour Windows. Oui, sauf que vous avez oublié votre logiciel là, que vous avez acheté assez cher, qui n'est pas compatible avec le nouveau Windows, donc il faudra également acheter la nouvelle licence.
Oui, il y a ça aussi. Et pareil donc pour vos smartphones, donc que ce soit sur un iPhone ou un Android, pensez également à faire régulièrement les mises à jour qui vous sont maintenant proposées automatiquement. Il y a un petit pop-up qui apparaît avec une petite notification. Faites cette mise à jour, puisque également, la majorité du temps, c'est pour corriger des failles de sécurité. Et les smartphones sont très... comment dire, c'est la nouvelle cible au niveau de ces failles-là pour essayer de trouver des malversations à faire dessus. Pour faire
simple. Oui, les pirates essayent de viser... beaucoup de personnes, et le meilleur moyen, c'est de voir quels sont les terminaux les plus utilisés. Jusqu'à présent, c'était tout ce qui était PC Windows. Maintenant, on a de plus en plus de smartphones, tablettes, etc. Donc, c'est ce type de matériel qui est visé par les pirates. Au niveau des mises à jour, alors là, on parlait des mises à jour système de Windows. Il y a aussi les mises à jour Java, les mises à jour de vos suites bureautiques, etc.
C'est pas une danse, hein?
Non, c'est pas la Java de
Broadway.
Ces mises à jour, il faut les faire. Mais par contre, n'acceptez pas une mise à jour de Java si vous avez jamais installé Java sur votre machine. Ça peut cacher autre chose.
Ouais, c'est ça. Alors le problème, c'est que si je suis monsieur, madame, tout le monde, j'ai une mise à jour qui m'est proposée. Si elle m'est proposée par mail, surtout, je ne l'utilise. Ça fait la transition. Surtout, je ne passe pas par les mails pour faire une mise à jour.
Oui, et avant de faire cette transition qui est magnifique,
merci.
Tu as une voiture qui roule au diesel, tu vas pas, même si on te propose de l'essence pas chère, tu ne vas pas mettre de l'essence, tu vas mettre du diesel. Ah oui. Là, c'est pareil, si on te propose une mise à jour Java alors que tu n'as jamais installé Java, voilà, n'accepte pas la mise à jour.
Mais souvent, les mises à jour sont proposées avec les petits, alors si je prends Windows, en bas à droite, les petits centres de notification, un petit icône qui savait mettre à jour tel programme. Généralement, quand c'est ça, c'est plutôt safe. Il n'y a pas de risque.
Ouais, mais ouais, c'est ça. Faire attention aux pop-up. Par contre, les utilisateurs se font avoir.
Oui, sur le site web. Les pop-up. Ouais, ce sera pour après. Oui. Ok, très bien pour les mises à jour. Après cette très belle transition, donc nous allons passer à l'étape suivante, les emails. Donc les emails, on en bouffe matin, midi et soir, il y en a partout. On en a à titre personnel, à titre professionnel. Et puis ça suffit déjà, c'est déjà bien. Donc je crois que c'est un des usages les plus importants d'Internet, si je ne dis pas de bêtises, en termes de quantité de données qui passent. Non ?
Non, non.
Enfin, pas en bande passante, mais en termes de...
oui.
Enfin bref, il y en a trop. Il y a trop d'emails.
Oui. Voilà. Bon, arrêtez
avec les emails. Bon, ceci dit, avec les emails, c'est une sacrée porte d'entrée pour pirater des entreprises, pour rentrer dans des ordinateurs. On a régulièrement des actualités qui nous parlent de ça. Une société a été bloquée suite à un virus ou à une attaque informatique. Et souvent, la porte d'entrée, c'était un email qu'un collaborateur a reçu. Et il a ouvert la pièce jointe qu'il n'aurait pas dû ouvrir. C'est bien ça, mon capitaine ?
C'est bien ça. Alors, si tu veux, je vais même détailler, parce qu'on a eu le cas à Clermont-Ferrand, où carrément la société a coulé, a fermé. Donc, une collaboratrice a cru recevoir une facture par mail. Elle l'a ouverte, elle a cliqué dessus, elle l'a ouverte. Le programme malveillant s'est exécuté. Vu que les serveurs, enfin les PC sont en réseau et que les lecteurs réseau partagent tous les fichiers, le virus s'est propagé. Et ce n'était pas un simple virus, c'était un cryptolocker, donc a crypté toutes les informations.
Donc de ce fait-là, les informations sur les ordinateurs ne sont plus accessibles. Et pour les débloquer, au mieux, il faut verser une rançon.
Qui ne fonctionne pas.
J'ai bien dit au mieux, c'est pour ça. On a également dans les actualités récemment des villes aux États-Unis qui sont entièrement, les administrations sont entièrement bloquées par ce même type d'attaque. Et tout ça à chaque fois par un email. Ou des emails. Alors ma question...
Les emails, la fameuse porte d'entrée.
La fameuse porte d'entrée. Alors ma question, je suis comptable, je reçois un email avec une pièce jointe dont on parle d'une facture. Je vais comme la traiter cette facture. Enfin, je suis supposé ouvrir cette pièce jointe pour voir de quelle facture il s'agit. Comment je peux
attendez
faire pour...
Attendez les huissiers. Attendez les huissiers.
Une bonne entreprise, une entreprise qui ne paye pas ses factures. Ok, très bien, mais après, il faut qu'on s'est dit ça.
C'est un peu ça aujourd'hui. Alors déjà, il faut que le comptable sache qui sont ses fournisseurs. Il faut qu'il les connaisse sur les bouts des doigts. Hein, je suis français, j'envoie mes colis par la poste. Si je reçois soi-disant une facture de FedEx, ça sent pas bon. Voilà, il faut vraiment connaître ses fournisseurs. Ensuite, j'ai envie de dire, arrêtez d'envoyer les factures par mail. Ça,
tu les reçois.
C'est interdit.
Oui, mais tu les reçois. Tu les reçois, je reçois beaucoup, moi, par mail encore. Tu les reçois.
Ah oui.
Ouais. Tu les reçois. Ah, ça, donc, tu les envoies pas, tu les reçois. Donc, je parle de la personne qui reçoit des mails. C'était plus pas envoyer, mais recevoir. Donc, effectivement, au niveau professionnel, quand vous recevez un email de quelqu'un que vous ne connaissez pas, avec une pièce jointe un peu chelou, posez-vous la question avant de faire quoi que ce soit.
Alors déjà, une facture, c'est, j'ai envie de dire, exigé de la part de celui qui vous envoie la facture. Il faut absolument que ce soit un PDF. Et encore, ce n'est pas garanti à 100%. Mais il faut que ce soit un PDF. Si c'est un point exe, un point bat, un point zip. Ah oui, mais ça existe encore. Un point zip, un point je ne sais pas quoi, déjà, fuyez.
Non, fuyez pas, restez au bureau, mais supprimez l'email.
Après, un point PDF... le problème, c'est que j'ai déjà vu des PDF qui contenaient du code malveillant. Donc, ça craint.
L'antivirus, là-dedans, il n'intervient pas ?
Eh bien, il peut intervenir s'il connaît la signature du virus.
D'accord.
Et si ça passe au travers, comment fait-on ? Ben, là, ça devient très, très, très compliqué. C'est pour ça qu'il faut être exigeant avec les fournisseurs. Soit le fournisseur a une plateforme numérique, ou si vous avez un sérieux doute, appelez directement le fournisseur.
Voilà. Ça peut être ça aussi. Maintenant, à titre personnel, donc vous recevez des emails d'un cousin en Afrique qui a un héritage, qui ne sait pas comment faire, le fameux.
Ah, tu l'as retrouvé ?
Oui, il m'a retrouvé aussi. Donc, vous ne cliquez pas. Hein. Vous supprimez le mail et vous n'allez pas plus loin. Si vous recevez également, il y a souvent des mails, enfin j'ai déjà eu des mails de personnes qui vous envoient un message en disant, voilà, c'est quelqu'un que vous connaissez. Salut, c'est Cédric par exemple, c'est Cédric, je suis à l'étranger, j'ai un problème, j'ai besoin de toi, je te renvoie un message bientôt pour te dire comment m'aider. Ça sent pas bon.
Je te remercie pas d'ailleurs, hein, parce que j'étais vraiment dans la galère.
donc quand vous avez ça, ça sent pas bon, parce que souvent c'est quelqu'un qui a réussi à choper les listes de contacts que vous avez. Alors, ça peut être sur du Facebook, sur d'autres liens, où il a pu utiliser un prénom commun que vous connaissez, tout simplement.
Ou votre login et mot de passe est trop faible et il a pu tomber dessus.
Il a pu tomber dessus également, oui. Et donc là-dessus, pareil, vous ne répondez pas. Qu'est-ce que vous avez d'autre encore ? Vous avez la fameuse arnaque au président.
Alors ça, c'est plus pour les sociétés.
Ouais,
généralement, c'est les secrétaires ou les assistants.
Mais ça, c'est plus un coup de fil, ça même, d'ailleurs.
C'est d'ailleurs, ouais. C'est,
alors, non, ça mail, t'as raison, excuse-moi.
Ça dépend, ça peut être, oui, non, ouais. Mais ça peut être par coup de fil aussi. C'est les assistantes qui reçoivent un mail en disant, voilà, je suis coincé dans un état, dans un pays étranger, on a un contrat à signer, etc. Peux-tu me renvoyer un RIB rapidement?
Oui, on est en train d'acheter une société, pour l'instant, c'est confidentiel. J'essaie d'en parler à personne. Par contre, j'ai besoin que vous débloquiez le paiement de cette société de 1 million d'euros sur tel RIB que je vous communique. Merci, signé le président, etc. Et puis, ça passe comme ça. Bon, c'était pas le sujet, mais effectivement, sur un mail, on peut faire pas mal de choses. Donc, faites attention. Et puis aussi, le dernier type de mail sur lequel vous devez vous méfier, alors c'est un peu le type l'arnaque au président, c'est ce qu'on appelle le phishing, alias le poisson, la pêche. Le principe, c'est que vous recevez un email de EDF ou de votre banque ou de votre fournisseur d'accès qui vous dit, voilà, on a un petit problème informatique. Merci de cliquer sur ce lien pour nous confirmer votre mot de passe. Faute de quoi, on va devoir fermer votre compte ou alors on ne pourra pas vous reverser cette table d'EDF. On a de l'argent, on a trop prélevé d'argent chez vous. Vous avez payé trop de factures, on doit vous rendre 150 euros. Une grosse somme.
Mais ou la CAF.
Ou la CAF aussi, on nous doit de l'argent, machin. Par contre,
les impôts.
Merci de nous confirmer votre mot de passe, tout un point informatique. Cliquez ici pour mettre votre mot de passe. Et vous cliquez, vous arrivez sur une page qui ressemble à l'identique, à une vraie page des impôts, de la CPAM, de EDF, de qui vous voulez, enfin de celui qui vous a envoyé le mail. Puis quand vous allez rentrer votre identifiant, votre mot de passe, en fait, c'est pas le vrai site. Et puis vous arrivez sur un truc, ça va être une petite erreur, bah non, ça marche pas, ou très bien, on a enregistré vos données, merci, au revoir. Sauf qu'en fait, vous avez donné vos vrais identifiants à quelqu'un d'autre. Et cette personne va pouvoir rentrer sur votre compte de la CPAM, de la CAF, de votre banque surtout, ou de votre compte fournisseur d'accès, pour récupérer vos données bancaires, parce que c'est l'intérêt de ça, ou on revient toujours sur l'usurpation d'identité.
Et mais comment s'en protéger? Et en fait, il faut savoir qu'un mail, tant que vous ne cliquez pas dessus, que vous ne téléchargez pas d'image qui est dans le mail, il n'y a aucun moyen de savoir si vous avez pris connaissance du message ou pas. Du moment où vous commencez à cliquer, le pirate sait que vous avez tenté un truc. Alors peut-être que vous n'avez pas saisi l'identifiant, etc. Donc ce n'est pas non plus trop tard tant que vous n'avez pas saisi d'informations personnelles. Mais voilà, évitez au maximum de faire un clic. Et si vous avez un vrai doute, imaginons que Free vous envoie des demandes d'informations, le meilleur moyen, c'est d'aller par vos propres moyens sur le site internet. Allez sur free.fr, vous cliquez sur mon compte client et là vous identifiez. S'il y a vraiment un problème, généralement le portail est assez bien foutu pour vous annoncer le problème en direct.
Exactement, tout à fait. Donc voilà, c'est un peu les différents points pas d'alerte, mais de surveillance à avoir au niveau des emails. Autre chose sur les emails, Cédric?
Si. Oui, faut pas. Si. Alors là, c'est point de vue, j'ai envie de dire, vie privée. Un email, il faut le voir comme une carte postale. C'est-à-dire, tous les serveurs où va transiter cet email, en fait, quand vous envoyez un mail à votre cousin, ça va passer par plein de serveurs. Et ces serveurs, ils sont accessibles par des humains, par des robots, donc le contenu peut être consulté. Donc les emails ne sont pas cryptés de base en standard. Donc le contenu est visible. Donc si vous commencez à envoyer des informations confidentielles, et bien ces informations confidentielles, tous les gens qui vont voir passer cet email vont avoir accès à cette information. Donc voilà, ayez ça bien en tête, qu'un email, c'est égal à une carte postale.
Donc quand je t'ai envoyé l'email pour te donner rendez-vous pour cet enregistrement,
tout le monde le savait.
Tout le monde le savait. Oh, mon Dieu.
Voilà. Non, donc il n'y a rien de secret.
Surtout au niveau professionnel, effectivement, par rapport à ça.
Même personnel, on a envie veut envoyer des informations un petit peu confidentielles, une photo un peu dénudée. N'envoyez pas de mail standard, il faut qu'il soit crypté, etc.
Tu fais ce que tu veux avec tes photos. Ok.
Tu les as bien reçues.
Nickel. Bon, parfait. Point suivant, les sites web. Donc on passe énormément de temps à surfer, enfin quand je dis on, oui, nous tous, on passe beaucoup de temps à surfer sur Internet, à utiliser l'outil Internet, votre navigateur web, qui peut être Chrome, Firefox, Internet Explorer, même s'il n'existe plus tellement, Edge, etc., etc. Et sur les sites web, il peut y avoir également des risques. Cédric.
Oui. Oui, il peut y avoir des risques. Des risques, oui. Tomber sur des faux sites, mais ça, bon, je pense que vous êtes assez intelligent pour ne pas vous faire avoir là-dessus. Mais il peut y avoir des risques, surtout lors des inscriptions. Je veux accéder à un site web, mais pour aller un peu plus loin, il me demande un login, enfin de m'inscrire. Déjà, la première chose, si vous avez les moyens, les compétences techniques, c'est d'avoir une adresse mail par site où vous enregistrez. Donc, si vous enregistrez sur 250 sites, il faudrait avoir 250 mails. Alors là, je pense que 99% des gens qui nous écoutent me prennent pour un taré. Mais non, c'est possible.
J'en fais partie.
Merci. Ça me fait plaisir. Et ouais, c'est.
Donc, il faut que je crée un compte mail systématiquement, que je crée un nouveau compte mail avec un nouveau mot de passe, avec une nouvelle boîte mail.
Alors non,
je connais,
il existe des techniques. Voilà, non, mais pour ceux qui ne savent pas, il existe ce qu'on appelle des techniques d'alias, c'est-à-dire sur une adresse mail, on est capable de créer autant d'alias que l'on veut. D'ailleurs, fut un temps, je crois que c'était le fournisseur FreeSurf qui permettait ça. On avait une adresse mail principale et on faisait point quelque chose et le point quelque chose derrière était associé à sa boîte mail principale. Donc tous les mails atterrissaient sur la boîte mail principale. Mais lorsqu'on s'inscrivait sur des sites internet, on pouvait avoir autant d'adresses mail qu'on voulait.
Ok, donc si on est intéressé, il faut chercher un peu alias sur les mails, sur c'est internet. Alors, mais quel est l'intérêt de ça? Attends, quel est l'intérêt donc,
merci. Bah oui, merci. La question c'était, mais pourquoi? T'es malade. Non, ça évite ce qu'on appelle l'identification unique. Quand vous inscrivez sur un site avec une adresse mail et que vous utilisez cette adresse mail sur tous les sites, et ben, quelle est la liaison entre tous ces sites? L'adresse mail. Donc les sites peuvent s'échanger des informations en disant « Ah oui, en fait, il est allé chez moi, il était intéressé par ça, tiens, tu peux peut-être essayer de lui refiler ça ?» Ou faire d'autres croisements un peu plus poussés. Voilà.
Donc là, on est plus dans la protection des données. On n'est pas tellement dans de la sécurité informatique, on est plus dans du « Oh, quoi qu'on n'est pas loin ». La sécurité des données, de la comment dire, l'identification, de l'anonymat, où je vais y arriver.
Anonymisation.
Merci. Sur Internet, pour essayer de laisser un peu moins de traces possible, même si on n'a rien à se reprocher. Aujourd'hui, en face de nous, on a beaucoup de sociétés commerciales qui essayent de regrouper un maximum d'informations pour essayer de faire un profil le plus précis possible. Donc, si on peut éviter de leur donner trop à manger et à boire.
C'est ça. Ça évitera d'avoir des mauvaises surprises au téléphone en vous disant « Ah, en fait, on sait que vous avez ça, vous n'êtes pas intéressé par notre projet. Non, merci, au revoir. »
C'est un peu voilà. Le principe, en fait, des sociétés qui t'appellent pour te vendre une cheminée, du chauffage, des panneaux solaires, alors que tu ne les as jamais contactés. Ils ont récupéré ton nom et ton numéro de téléphone dans un fichier qui se vend à droite à gauche. Alors, c'est souvent les annuaires ou des choses comme ça. Mais le principe des mails, c'est le même truc, sauf que ça va beaucoup plus vite et ça se diffuse à beaucoup plus de personnes.
C'est ça. En fait, les sociétés publicitaires achètent des listes un peu de partout sur tous les sites. Et s'ils retrouvent la même adresse mail un peu de partout, eh ben, ils vont croiser toutes les informations qui sont associées à ces adresses mail et ils arrivent à constituer une base de connaissances sur vous.
Très bien. Autre chose aussi, c'est... Alors, j'en parle dans le site web, mais c'est plus général. C'est la fameuse gestion des mots de passe.
Oui. Alors... C'est pareil, on vous dit, ayez un mot de passe différent pour chaque site internet.
C'est ça, c'est hyper important. Ceci dit, on le dit, mais c'est hyper, hyper, hyper important.
Ouais, mais quand je m'inscris sur Google, j'ai tapé comme mot de passe Google 1, 2, 3, 4. Et quand je me suis inscrit sur Facebook, j'ai tapé comme mot de passe Facebook 1, 2, 3, 4.
Ah, c'est pas bête, ça.
C'est pas bête, ouais. Hein, mauvaise idée.
Tiens, j'ai sur ton compte Orange, tiens.
Je te dirai pas mon mot de passe. Voilà. Eh bien, en fait, le principe du mot de passe, c'est qu'il soit le plus secret possible. Et donc, évitez de mettre votre prénom et vos dates de naissance.
Le nom de vos enfants.
Le nom du site. Voilà, le nom du site Internet. Oui, OK, c'est facile. Quand vous êtes sur le site Orange, eh ben, il y a le mot Orange et puis vous mettez 1, 2, 3, 4 derrière. Bon. Donc, comment on va faire pour faire des mots de passe différents pour chaque site Internet? J'ai un gestionnaire de mots de passe où j'ai plus de 300 mots de passe pour 300 sites Internet.
Bravo.
Ah ouais, c'est impressionnant. Je ne m'en rendais pas compte. Donc, j'ai un gestionnaire de mots de passe qui permet d'enregistrer l'adresse mail que j'ai mis pour ce site internet et le mot de passe qui est associé. Et chose encore plus marrante, c'est que ce gestionnaire de mots de passe se génère de manière automatique. Alors, je peux dire qu'il faut des minuscules, des majuscules, le nombre de caractères, des chiffres, des espaces, des dièses, des caractères même qui ne sont même pas sur le clavier. Et à vrai dire, sur les 300 mots de passe que sont stockés dans ce gestionnaire de mots de passe, j'en connais aucun. Et à la limite, je m'en fous, je ne veux même pas le savoir. Quand je vais sur le site internet, le gestionnaire de mots de passe, je lui dis « Écoute, je suis sur ce site internet » et il va automatiquement saisir l'adresse mail et le mot de passe et je vais pouvoir entrer de manière automatique.
Donc moi, je vais sur ton ordinateur et j'ai tous tes mots de passe.
Alors, pour ouvrir le gestionnaire de mots de passe, par contre, il faut un mot de passe. Alors, celui-là, je le connais.
Donc, en fait, voilà. Je sais, j'en ai aussi de gestionnaire de mots de passe. Donc, en fait, voilà. Le principe, effectivement, c'est que ce logiciel, ce gestionnaire va gérer automatiquement pour remplir les mots de passe quand vous devez créer un mot de passe sur un service. Il va également les enregistrer et s'en souvenir. Et lorsque vous allez devoir utiliser ce service, ce logiciel, en fait, lui, il aura un mot de passe principal que celui-là, par contre, vous allez devoir vous rappeler. Et en fait, il n'y aura qu'un seul mot de passe pour l'ensemble de vos mots de passe. Et c'est hyper pratique. C'est selon les versions et selon les types de logiciels, alors je ne sais pas lequel c'est, toi tu utilises
C'est KeePass.
KeePass, il y a également Dashlane, il y a également OnePassword qui sont assez connus. Alors le problème de ces logiciels, alors KeePass, il n'est pas stocké en serveur lui, il est en local.
Justement, j'allais y venir. Alors déjà, ce ne sont pas des simples bloc-notes, ou des simples tableaux Excel, c'est vraiment des fichiers qui sont même cryptés. Donc quelqu'un qui n'a pas votre mot de passe principal ne peut pas aller décoder les informations qui sont à l'intérieur, ne peut pas consulter ces informations qui sont à l'intérieur, quel que soit le logiciel de gestion des mots de passe. Après, il y a des gestionnaires qui sont offline, c'est-à-dire qui ne sont stockés que sur votre clé USB ou votre ordinateur, etc. Et d'autres qui peuvent être online, c'est-à-dire intégrés à un navigateur et peut-être utilisés où on veut grâce à la connexion Internet.
Alors, la partie de la connexion Internet, c'est là-dessus que je voulais venir. C'est pratique, c'est-à-dire que vos mots de passe vont se retrouver aussi bien sur votre ordinateur que sur votre téléphone ou votre tablette. Donc, vous n'avez pas besoin c'est pratique, tout simplement. C'est synchronisé en permanence. La problématique, c'est que c'est justement stocké sur Internet, dans le cloud, comme on dit.
Alors, même si c'est une exposition.
Exactement. C'est une exposition. Et même si c'est crypté, etc., on peut se dire que les méchants hackers ont tout intérêt à trouver un jour la faille de ce type de logiciel, parce que là, par contre, ils auront une... C'est la poule aux œufs d'or. Ils trouveront la poule aux œufs d'or. Donc...
Ça dépend où tu situes le niveau de risque. Si tu as confiance, par exemple, tes comptes bancaires sont sur Internet, tu as confiance. Donc, est-ce que tu as confiance en Dashlane? Voilà, c'est à toi de dire oui.
Moi, c'est Dashlane. C'est une question de confiance, mais tu peux avoir confiance, c'est pas pour autant qu'un jour, quelqu'un va trouver le...
Oui, surtout que récemment, il y a une faille qui a été découverte dans le navigateur Google. Les anciennes versions de Google ont une faille qui permet de récupérer les mots de passe enregistrés.
Voilà, donc il y aura toujours à un moment donné possibilité d'eux. Donc ce logiciel-là, utilisez-le. Alors après, le fait de se dire je prends une version offline qui ne se trouve que sur ma clé USB
inconvénient.
Ou que sur mon ordinateur, c'est bien. Sauf que le jour où votre ordinateur tombe en panne, brûle, ou vous le faites voler, ou la clé USB elle tombe en panne parce que ça a une durée de vie limitée, ou vous la cassez ou vous la perdez, et bien vous avez tout perdu aussi. Donc il y a un mix des deux. Faites attention à ça, enfin des deux côtés. Il existe des solutions un peu intermédiaires, mais il faut être un peu plus barbu, entre guillemets. Mais il y a des solutions. Regardez, renseignez-vous sur Internet jusqu'à maintenant. Alors l'avantage des solutions qui sont... Alors certaines sont payantes. Je pense notamment à Dashlane et OnePassword. Alors Dashlane, c'est payant pour peu que vous vouliez synchroniser sur plusieurs devices. S'il n'y en a que deux, je crois que c'est gratuit. Après, comme les antivirus, vous avez des options supplémentaires, des services supplémentaires, on va dire. Mais sur ces services principaux qui ont pignon sur rue, donc je pense notamment à OnePassword et Dashlane, je reviens dessus, ils ont tellement pignon sur rue que le jour où il se passe quelque chose, on le saura tout de suite. Enfin, il y aura une sorte de comment dirais-je, ça va pas être confidentiel. Donc l'avantage, c'est que on peut se dire que ça risque de pas trop arriver quand même. Bon, après, c'est une question de d'appétence au risque. Mais bon, jusqu'à maintenant...
Alors, quelqu'un qui est très craintif, ce que je lui conseille, c'est d'utiliser une solution offline comme KeePass, de faire régulièrement sa sauvegarde de son gestionnaire de mots de passe sur une unité extérieure. L'inconvénient, c'est que lorsqu'on est à l'extérieur, qu'on n'est pas sur son PC, on n'a pas accès à ses mots de passe et on ne peut pas en créer de nouveau. J'ai envie de dire, ça évite aussi de s'inscrire n'importe où, n'importe quand.
Oui, après ça dépend de vos usages. Bon, voilà. Donc, cette histoire de mot de passe, c'est important. Et sur les services, je repense encore à Dashlane. Maintenant, lorsque vous avez des sites qui ont été attaqués par des hackers, donc vous avez un mot de passe chez, je dis n'importe quoi, les Google. Donc, votre mot de passe Google est enregistré sur Dashlane. Et puis, Google a été la cible d'une attaque. Et puis, des hackers qui ont piqué des identifiants et des mots de passe. Et bien, là, vous allez recevoir sur Dashlane un petit mot. Attention. Google a été attaqué. Nous vous préconisons de changer votre mot de passe. Et sur certains sites, enfin pour certains sites, il propose de le faire de manière automatique. Est-ce que vous voulez qu'on s'en occupe ? Vous mettez oui, il va changer le mot de passe automatiquement, vous n'avez rien à faire, et puis il enregistre ce nouveau mot de passe. Et ça, c'est quand même vachement pratique.
Alors, je reviens aussi sur les adresses mail. Tu parlais de Dashlane qui vérifiait si les sites étaient piratés. Il existe également des services web qui proposent, qui demandent ton adresse mail et va consulter la base des pirates pour savoir si ton adresse mail a été utilisée, a été piratée déjà sur les sites en question.
Oui, et notamment le site Oui, bon, on mettra le lien.
Je suis d'accord avec toi.
Have I been pointed. En fait, mettez votre adresse dessus, votre adresse mail, ça va vous dire si, effectivement, il y a eu des... c'est déjà passé des choses. Et sur quel site ?
Et dernier point aussi, avant qu'on passe à la partie suivante. Lorsqu'on s'enregistre sur un site web, on vous demande des fois votre nom réel, votre nom civique.
Cédric, par exemple.
Cédric, et votre adresse postale. Par exemple, si vous faites des commandes chez Amazon, chez Mano, etc. Ce que je vous conseille, c'est dans votre adresse et dans votre nom, de rajouter un petit code sur 2-3 caractères, pas besoin que ce soit compliqué, pour identifier en fait, le site internet. Je m'explique. J'habite par exemple 23 route de Lyon, à Grenoble. Et ben, sur le 23 route de Lyon, derrière, je vais mettre un petit code. Donc ça va être 23 route de Lyon, LI3, et puis 38 000 Grenoble. Et ça veut dire que si le site où j'ai déposé cette adresse mail se fait pirater, cette adresse physique va se retrouver ailleurs sur les réseaux. Et donc, ça va me permettre de dire, si je reçois par exemple un mail en disant « Bonjour, alors j'ai laissé cette adresse sur le site Amazon.fr et si d'un seul coup je reçois un mail « Bonjour, c'est FedEx, voici une facture concernant les livraisons à la poste concernant le 23 route de Lyon à Grenoble, IL ». Je fais « Ah ben man, non, ça c'était Amazon, c'était pas FedEx, tu vois ».
D'accord.
Voilà, ça permet d'identifier les arnaques.
Et donc ça, tu mets un code et après tu l'enregistres sur un tableau, quelque chose comme ça ?
Ah, et ben dans mon fameux gestionnaire de mots de passe, je rajoute ce que j'appelle ça un ID code. Donc dans les sites où je m'inscris, j'ai une liste d'ID code pour chaque site.
Voilà, vous savez maintenant pourquoi j'ai invité Cédric pour cette émission.
Je suis un taré.
Il m'a dit, mais je ne suis pas un spécialiste de la sécurité. Non. Tu n'es pas un spécialiste, un parano. Non, mais ceci dit, c'est une bonne idée.
Voilà, ça, on ne se protège pas, mais ça permet d'identifier.
Enfin, de savoir d'où vient le problème. Ouais, de savoir quel site n'a pas joué le jeu, s'est fait pirater ou a revendu vos données à quelqu'un d'autre.
C'est ça.
Et pouvez lui dire, stop, je ne suis pas content, donc je ne commanderai plus chez toi. Ok, très bien. Élément suivant de sécurité informatique à surveiller, ce sont les logiciels téléchargés, ou le téléchargement de logiciels. Alors là, on ne va pas parler des logiciels pirates, bien évidemment, ce n'est pas du tout le but, parce que lorsque vous allez commencer à chercher des logiciels qui ont été ce qu'on appelle craqués, vous avez de fortes chances, une très forte probabilité, de vous retrouver dedans avec des virus, des trucs qui vont...
Même pas que des logiciels piratés. Par exemple, je recherche un film, disons clairement les choses. Je recherche un film et on me demande de télécharger tel programme pour pouvoir avoir le film.
Ben, oui, ça.
Là, c'est déjà un problème.
Là, ça. Donc, c'est quand j'appelle logiciel, effectivement, tu as raison. C'est pas en allant chercher un logiciel, mais je vais télécharger un programme, quel qu'il soit, par rapport à ça. Donc, faites très attention à ça. Alors, ceci dit, on télécharge quand même beaucoup de logiciels parce que j'ai besoin de logiciels installés sur mon ordinateur. Qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je dois prendre comme sécurité, sur quoi je dois faire attention, Cédric ?
Alors, si déjà on veut commencer à s'amuser à télécharger des trucs et qu'on sort des sentiers battus,
vous assumez.
Hein ? Oui, vous assumez.
Je parlais sur des vrais logiciels. Enfin, pas de. Je suis de bonne foi. Je vais prendre un exemple. Alors, la réponse est dans ma question. Mais j'ai ma fille. Qui, il y a quelques années de ça, sur son ordinateur, avait besoin de Excel ou de Word, je ne sais plus lequel des deux. Donc, elle marquait sur Google « télécharger Excel ». Et elle téléchargeait plein de logiciels qui n'étaient pas Excel, puisque Excel, c'est un logiciel payant. Enfin, c'était...
Qui n'est pas distribué comme ça.
Donc, il y avait plein de trucs qui étaient bidons, qui lui ont installé plein de... Un coup sur son ordinateur, il y avait plein de pop-up partout, plein de programmes à la con qui avaient été installés, plein de barres d'extension sur le navigateur Je me dis, ça vient d'où, c'est bien d'où? Non, j'ai pas installé ça, ça, c'est pas moi, c'est pas moi. Et en fait, en demandant ce qu'elle faisait sur l'ordinateur, c'est comme ça que j'ai retrouvé en fait, le lien. C'est qu'elle dit, mais non, mais j'ai besoin de Word, donc je voulais installer Word, pensant naïvement que tout ce qui était sur Internet était gratuit. Bon, ça, après, je vais expliquer un peu comment ça fonctionnait. Mais donc...
Et bien justement, le truc, il commence par là, c'est de dire, parce que j'allais te demander, le problème vient d'où? Vient du fait que ta fille a été naïve, donc un problème d'éducation.
Merci, d'accord. Oui, mais c'est vrai, ceci, il y a eu ça.
Oui, oui, mais attends, mais il y a aussi un problème peut-être de moteur de recherche. Pourquoi le moteur de recherche propose quelque chose que tu ne souhaites pas, tout compte fait?
Oui, mais après, tu es obligé de faire confiance au moteur de recherche.
Bah, c'est bien là le problème. Ça veut dire que le moteur de recherche, non, tu ne peux pas avoir confiance en lui. Il te propose des résultats qui sont associés à des mots. Toi, tu penses à quelque chose, tu dis, je vais te voilà, il te propose des trucs. Donc, il faut avoir aussi un sens critique. Donc, il y a un problème d'éducation de base, mais derrière, il faut avoir aussi le sens critique. Si je veux avoir Word, Excel ou Windows, quoique Windows, c'est en train de dériver parce que maintenant, on peut le télécharger. Mais tiens, on peut le télécharger où? Sur les sites Amazon, sur des sites qui viennent de nulle part, ou sur le site de Microsoft?
Sur YouTube.
Ah oui, c'est un produit Microsoft. C'est un produit Microsoft. Ah oui, donc je vais peut-être le télécharger chez Microsoft.
Exactement.
Donc c'est un problème d'éducation, voilà. C'est dire où est-ce que je dois télécharger les programmes. C'est toute là la question. Et je pensais aussi que tu allais me parler de 01net, enfin de l'ancien site télécharger.com. D'ailleurs, je ne sais pas si...
Je ne sais pas si c'est encore, je pensais à ça, ouais, c'était ça que j'ai dit, ouais.
Ouais. C'est le même problème. C'est j'ai besoin de VLC. Je vais le télécharger sur le site télécharger.com ou sur le site de VLC. Eh ben, le problème, c'est que télécharger.com, ok, c'était un site qui avait pignon sur rue, qui est édité par une boîte qui est assez connue, qui est 01net. Sauf que les petits malins, ils empaquetaient l'installateur de VLC dans un autre installateur qui vous rajoutait des barres de pub, des trucs, des machins, tout ce que vous ne vouliez pas. Et à la fin, ils vous installaient VLC. Eh bien, la problématique, elle est là. Je pense qu'il faut se forcer à dire, quand je veux un logiciel de chez machin, je vais aller chez machin, je vais aller chez l'épicier, cet épicier-là. Je ne vais pas aller dans une grande surface qui me propose tout et n'importe quoi et qui a réimpacté à sa façon le logiciel. C'est un problème d'éducation.
Et si vous ne savez pas quel est le nom du logiciel que vous cherchez, regardez sur Internet, donc, moteur de recherche certes, en disant, voilà, j'ai besoin d'un lecteur vidéo. Et puis, vous regardez plusieurs sites, plusieurs blogs et vous faites un avis. Prenez pas non plus le premier qui vient, mais faites-vous un avis sur ce qu'il faut installer et ne pas installer, et où est-ce que vous allez le trouver. Et c'est vrai que c'est un peu du bon sens. Ne cliquez pas, n'installez pas tout et n'importe quoi. Il n'y a rien de gratuit sur Internet et il n'y a rien de miracle.
Ouais, et puis au moment de l'installation, lisez bien toutes les options.
Oui.
Des fois, la case à cocher, barre de recherche, super recherche, machin, ou protection, truc, c'est du flan généralement. C'est pour vous installer un siphonneur de données ou un tracker de
pub,
de site.
Marketing, ouais, tout comme ça. Ouais. Bon, ok, très bien. Bon, maintenant, on va attaquer un gros morceau. Le morceau qui fait peur à tout le monde, enfin à tout le monde, pas à moi, mais qui fait peur quand même à beaucoup de monde, c'est le paiement en ligne. Là, on parle de choses sérieuses, on parle de sa carte bancaire. Ça y est, je vais pas sur Internet, je n'achète pas sur Internet parce que je ne veux pas laisser mon numéro de carte bancaire sur Internet, surtout pas, je sais je peux me faire pirater.
Non, puis moi, je paye qu'en espèces.
Voilà, sur Internet, je monte mon billet devant la webcam et je scanne mon billet. Non, plus sérieusement, donc en fait, cette peur, on va dire, cette angoisse, enfin, ouais, cette peur, est-ce qu'elle est légitime?
Oui, elle est. Oui,
ah
oui,
bon
elle est. Ah ben totalement. Il faut avoir peur. Non, mais oui et non. Oui, il faut avoir peur, mais il faut avoir raison gardée. Je crois que déjà le truc de bon sens, c'est que du bon sens, hein, la sécurité de base.
Oui.
Le bon sens déjà, c'est d'aller sur des sites connus. Je ne vais pas aller sur le site Amazon.fr, mais plutôt sur Amazon.fr. Tu vois la différence?
Oui, il y a un E.
Sauf qu'il n'y a pas de
E. C'est pour ça que ton exemple était bidon. Mais oui, mais c'est ça. Exactement.
Ben oui, c'est... Donc déjà, aller sur les sites reconnus. Alors, à l'époque, on disait, ouais, il faut un cadenas vert pour, si tu veux être sûr de ne pas te faire pirater lors de la saisie de ton numéro de carte bleue, etc., il faut un cadenas vert. Et ben non, maintenant, c'est plus vrai. Vous allez sur n'importe quel site et n'importe quel site a un cadenas vert. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs les sites sécurisés, les sites HTTPS. Et en fait, tous les sites sont en train de basculer en HTTPS. Pourquoi ? Parce que c'est gratuit de basculer en HTTPS. Ça ne mange pas de pain. Et d'ailleurs, on se fait mieux référencer quand on est en HTTPS.
Mais ça, ça permettait d'éviter que lorsque je mettais mon numéro de carte bleue sur le site, quelqu'un puisse lire ce numéro en se mettant entre moi et le site. C'est un peu ça l'idée, non ?
Oui, c'est ça. En fait, voilà, c'est ça, exactement. Je reviens au petit mail là, de tout à l'heure, là, qui n'était pas crypté, qui se trimballe de serveur en serveur de manière lisible. Ouais. Voilà. Et ben, c'est ce qui se passait quand on a... Enfin, c'est ce qui se passe d'ailleurs toujours quand on n'a pas le cadenas vert. C'est-à-dire que le numéro de carte bleue, etc., se trimballe en clair sur le réseau. D'ailleurs, ça fait réfléchir. Si j'ai peur que mon numéro de carte bleue se trimballe en clair sur le... Bon, bref. Donc, oui, déjà, voilà. Donc, le cadenas vert, c'est essentiel. Mais ça ne protège pas de tout. Moi, je peux monter un site internet demain qui vous demande un numéro de carte bleue. Il y aura le cadenas vert. Ce n'est pas pour autant qu'il faut laisser le numéro de carte bleue sur le site que je viens de monter.
Oui, tu peux me vendre un truc. En fait, tu peux me vendre un produit avec un numéro de carte bleue. Donc, tu enregistres, enfin, j'achète sur ton site un produit que tu ne m'enverras jamais. Tu auras encaissé l'argent donc, par la banque. Donc, ce ne sera pas un piratage. C'est plus un faux site. Et qu'un produit tu ne m'enverras pas, je ne pourrai pas te contacter parce qu'on ne s'est pas quitté finalement.
Et puis je peux récupérer ton numéro de carte bleue et l'utiliser sur d'autres sites.
Tu peux faire ça quand même ? Ah oui, avec un faux. Alors, avec un faux, oui, tu as raison, avec une fausse page de paiement.
Oui, alors c'est de moins en moins vrai parce qu'aujourd'hui il y a une nouvelle sécurité qui est apparue qui s'appelle le 3D Secure. Oh, c'est quoi cette bête ? C'est les fameux SMS que vous recevez lorsque vous saisissez votre numéro de carte bleue sur le site internet. Derrière, vous devez confirmer avec la réception d'un SMS.
Tout à fait.
Voilà.
Mais c'est pas systématique d'ailleurs. Tous les sites
ne
l'ont pas.
Non, ce n'est pas systématique. Non, tous les sites ne l'ont pas. Mais par contre, les sites qui ne l'ont pas, si vous contestez le paiement, eh ben ils l'ont dans l'os.
Ah, ça c'est bon à savoir ça par contre.
Voilà. Par contre, les sites qu'ils demandent et où le code est bien saisi, là, c'est vous qui l'avez dans l'os.
D'accord. Oui, donc là, vous avez une sécurité. Comme quoi, on viendra après, c'est important de bien sécuriser son smartphone.
Eh oui, mais attends, parce que maintenant, il existe du phishing, du genre « Bonjour, monsieur Gaëtan, c'est votre banque en ligne pour sécuriser les prochains paiements par carte bleue. On vient de vous envoyer un code par SMS, il faudrait que vous nous le confirmiez, s'il vous plaît. »
Ah. Pas mal.
Sauf que c'est un paiement qui est en cours sur un site internet. Voilà. Et c'est un pirate qui était en train de vous appeler.
Pas mal.
Voilà.
Alors, quand tu reçois un paiement, normalement, ils te disent quand même c'est quel site maintenant. Enfin, moi, quand je reçois ça, ça me dit...
Ils essayent d'être de plus en plus clairs, en effet. Ils essayent de donner le nom du site et le montant.
C'est ça, oui. Sur le site, j'ai un exemple... bonjour, pour identifier votre achat sur le site, c'est quoi ce site d'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est.
Sexy.com, pour l'achat de 12 capotes.
Non, c'était pour une carte grise. C'est site Toulouse, tu vois comme quoi, bref. C'était pour une carte grise, bref.
T'habites à Toulouse ?
Ben, j'en sais rien, non, justement, c'est bizarre. Je suis en train de dire, je vais prendre un exemple comme quoi c'était bien clair, ben non, c'est pas clair du tout. Donc c'est le site officiel des cartes grises, et c'est donc CECIT. CECI Toulouse.
Ceci Toulouse.
Bon. Bon, la carte grise a bien été reçue, donc c'était bien payé, mais bon. Comme quoi, c'est pas si clair
que ça. C'est une fausse carte grise.
Bref, on revient sur le truc. Donc, effectivement, pour tout ce qui est paiement en ligne, n'achetez pas sur n'importe quoi. Faites attention là-dessus. Mais c'est quand même. Il y a plus de risques, je pense, aujourd'hui, de se faire bloquer ou voler ses données. Sur son ordinateur, s'il n'y a pas d'antivirus, que de payer en ligne avec une carte bleue. Quoi. Enfin, pour ma part, je fais énormément d'achats, je n'ai jamais eu de problème. Je sais pas si t'en as
non, en effet, il ne faut pas non plus être paranoïaque. Alors après, il y a des solutions alternatives à la carte bleue.
Oui, ce que j'allais dire aussi, oui. Pardon, ouais, c'était ça.
Ouais. On peut utiliser des numéros de carte bleue virtuelle, c'est-à-dire qu'ils ne sont valables que pour un montant précis avec un numéro unique. Mmh. Certaines banques le proposent. Alors, de moins en moins de banques le proposent, je ne sais pas pourquoi. Et il y a également, après, les sites tiers comme PayPal.
Tout à fait.
Qui vous mettent une garantie supplémentaire. Un marchand qui vous propose PayPal a dû présenter des garanties auprès de PayPal PayPal pour pouvoir vous proposer un paiement par PayPal. Donc, si vous avez un souci après avec le marchand, PayPal peut venir
intermédiaire.
En tant qu'intermédiaire, c'est ça,
fait,
pour
ouais.
régler le litige.
Donc, c'est pas mal. Et après PayPal, ben, vous enregistrez votre carte bleue dessus, mais vous le mettez qu'une fois pour toutes et après, vous n'avez plus besoin de le ressaisir. Donc, ça peut être pas mal aussi ce type d'application tiers.
Et enfin, la mauvaise expérience qu'a eu une filiale du groupe La Poste, My French Bank, qui a voulu faire le buzz sur Internet, mais en fait, ils ont fait le bad buzz. Ils ont demandé aux internautes, aux tweetos, qui avaient un compte My French Bank, de poster une photo de leur carte bleue.
Ah, pas mal. Et est-ce qu'ils l'ont fait ? Attends, je vais tout de suite ouvrir French Bank, je vais vérifier ça.
Alors, le tweet principal a disparu, mais ça fait une sacrée vague. Et non, il n'y a personne qui l'a fait, parce que justement, trop de monde se pose la question en disant « Non, mais c'est une blague ou... » Voilà.
Bon, très bien. Autre chose sur le paiement en ligne ? À faire attention ?
Eh bien, écoute, non, je crois qu'on a fait le tour.
Bon, parfait. Élément suivant concernant la sécurité informatique, ça concerne les objets qu'on utilise tous les jours, plusieurs fois par jour, plusieurs fois par jour, à savoir le smartphone. Alors le smartphone, c'est l'outil, comme tu expliquais tout à l'heure, qui est le plus utilisé dans le monde en termes d'outils matériels informatiques. Et donc c'est celui sur lequel les pirates vont essayer de rentrer, puisque c'est là où ils auront le plus de possibilités de faire du mal, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les smartphones, en dehors de mettre régulièrement à jour son système de son OS ? Qu'est-ce qu'on fait d'autre ?
Qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on arrête de télécharger tout et n'importe quoi. Non, ça revient sur le bon sens. En effet, c'est très tentant. Vous avez une bibliothèque d'applications qui contient des milliers d'applications. Ce serait bête de ne pas en tester quelques-unes qui vous sont totalement inconnues. Et ben, c'est bien là le problème. C'est qu'elles vous sont totalement inconnues. Et elles sont aussi inconnues d'autres utilisateurs. Mais vous voulez quand même la télécharger. Et ben, allez, ni une ni deux. De toute façon, vous êtes sur un Play Store officiel. Hein, vous êtes sur Google Pay. Google Play. Voilà. Pas confondre, et vous téléchargez l'application et vous l'installez. Et bingo, là, qu'est-ce qu'il vous demande ? Il vous demande plein de trucs en charabia, il vous demande des autorisations. Mais des autorisations de quoi ? D'accéder à vos listes de contacts, à votre historique de téléphone, à vos SMS, à vos fichiers, à votre caméra, à votre micro. Mais qu'est-ce que vous venez de télécharger ? Ah oui, c'est une application pour transformer votre figure, pour coller un masque dessus de chat. Oh non, vous vieillir, tiens. ça me rappelle quelque chose.
Ouais.
Et bien voilà, vous autorisez l'application à accéder à tout ça. Et puis vous faites muse. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps ? Ben, l'application a eu accès à votre micro. Qu'est-ce qu'elle a pu faire ? Elle a pu vous écouter et transmettre les informations à un serveur. Elle a pu accéder à votre caméra, vous prendre en photo, en vidéo. Elle a pu accéder à la liste de vos contacts. Et là, elle a récupéré tous les numéros de téléphone, les noms, les prénoms, les adresses mail. Elle a pu accéder à votre historique de SMS ou carrément à votre téléphone, l'application téléphone pour passer des appels. Ça ne vous est pas déjà arrivé que votre téléphone reçoit des appels, puis d'un seul coup, pof, ça raccroche ?
Si.
Qu'est-ce que ça peut être ? Ah, est-ce que ce ne serait pas une application malveillante qui utiliserait votre ligne téléphonique à d'autres utilisations ? Peut-être.
Ah, je pense que c'était mon charisme. Ah. C'était ma voix
donc,
qui faisait
faut
peur.
Pas... Donc, il ne faut pas tout télécharger ou télécharger n'importe quoi, ne pas tout essayer. Il faut être sûr d'avoir besoin de cette application avant de la télécharger.
Et de pas...
Je te coupe,
et de ne pas prendre n'importe quoi, n'importe quelle promesse d'application. Exemple, des applications qui te promettent d'augmenter la capacité de ta batterie, par exemple.
Oui, mais c'est du bon sens pour nous qui sommes informaticiens. Mais quelqu'un qui n'est pas informaticien, avoir un téléphone qui, à 15h de l'après-midi, n'a plus de batterie, ce serait bien d'optimiser un petit peu et de gagner une heure ou deux.
Oui, donc il va prendre l'application qui te promet d'augmenter ta batterie de 20, 30 ou 40%. De manière
c'est ça,
intelligente.
Et ça va marcher pendant une... C'est ça, ça va marcher pendant une semaine et au bout d'une semaine, ça ne marchera plus parce qu'ils auront fait autre chose que optimiser la batterie.
Exactement.
Il y a également les applications officielles des banques. Il y a certaines banques, alors c'était à l'époque AXA Bank, Banque Directe, pardon, proposait une application qui était en fait un navigateur Internet qui ouvrait une page Internet sur le site Internet de Banque Directe. Enfin non, c'était AXA Bank. Donc ça ne sert à rien de télécharger une application alors qu'en allant sur le site Internet, on a exactement la même chose.
Oui, mais ça maintenant, ce n'est plus le cas.
ING l'avait fait à un moment aussi.
D'accord, mais là aujourd'hui, je ne pense plus que c'est beaucoup d'applications... D'applications qui font ça. Ce qui est important de bien comprendre, alors j'avais mis aussi dans les notes effectivement d'utiliser les stores officiels, passer par Google Play et passer par l'App Store, et qu'on ne sait pas passer par des trucs autres, même si c'est un peu plus compliqué pour l'iPhone, mais notamment je pensais plus à Android. Donc évitez ça, parce que vous ne savez pas d'où viennent les logiciels. Normalement, au moins, théoriquement, quand vous êtes sur Google Play, vous n'avez pas tout ce qui est virus, des choses comme ça. Théoriquement, je dis bien théoriquement, je ne suis pas certain de ce que je dis. Par contre, ce qu'il faut avoir conscience, ce n'est pas parce que vous allez avoir une application qui se trouve sur Google Play et qui est payante que derrière, ça va être une entreprise qui va vous garantir que c'est un beau logiciel. N'importe qui peut programmer, enfin n'importe qui a une compétence technique bien évidemment, pour programmer un logiciel malveillant, mettre un prix dessus, le mettre en vente sur le Google Play et puis attendre que ça se passe.
Et même pire, si, il peut obtenir aussi des bonnes notes, avoir beaucoup de téléchargements aussi, parce qu'il aura payé des petits Indiens qui cliqueront pour télécharger ce programme sur des Android fantômes.
Oui, tu peux avoir ça aussi, effectivement. Donc tout ça, quand je dis faites attention, c'est toujours compliqué, mais ne pensez pas que vous allez trouver le logiciel, le logiciel rare, le truc que personne ne connaît, le bon truc et astuce.
Le rubis.
À l'époque, d'ailleurs, au lancement de l'App Store, il y avait un diamant. C'était 100€, je crois, de mémoire, l'application. En fait, vous l'achetiez, vous aviez une photo d'un diamant ou un dessin d'un diamant sur le téléphone. Il y en a qui l'ont fait.
Bon. Tu t'en souviens ?
Non, ce n'est pas moi. Donc voilà, donc faites attention à ça. C'est pas parce que c'est sur. Donc je vous dis, c'est pas parce que c'est sur Google Play ou sur l'App Store. Même si sur l'App Store, ça va être un petit peu plus. Avant qu'une application soit publiée, c'est censé passer les mailles du filet et regarder un peu ce qu'il y a dedans. Mais on n'est pas à l'abri que ça passe quand même à travers. Donc faites attention à ça, tout simplement. On revient encore sur du bon sens. N'installez pas n'importe quoi. Renseignez-vous un petit peu avant. Et vous verrez que, normalement, si vous faites ça, il n'y a pas de souci.
Oui, faire attention, c'est faire attention également aux autorisations d'accès.
C'est exactement ça. Les autorisations d'accès. Donc, est-ce que vous autorisez le logiciel à accéder à votre liste de contact, à faire ci, à faire ça, à faire ça? On clique tous oui, parce que oui, je m'en fous. C'est comme les conditions d'utilisation. Sauf que là, on ouvre les portes pour certains logiciels. Donc, regardez-le. Et ça va être de plus en plus, je pense, sur les prochaines versions des OS de smartphone, aussi bien d'un côté que de l'autre. Je pense qu'on va avoir de plus en plus de notifications qui vont nous dire « Vous êtes sûr de ? Est-ce que vous êtes sûr de ? Est-ce que vous êtes sûr de ?» Ça va être chiant, mais je pense que ça va vous aider peut-être à réfléchir à deux fois avant de dire oui à tout. Et vous dire « Mais pourquoi cette application, elle va fouiller dans ma liste de contacts alors qu'elle est juste censée...
afficher la météo.
Afficher la météo, exactement. Très bon exemple. Et puis, dernière chose qui est hyper, mais alors c'est basique pourtant, je le vois trop souvent, c'est.
Ne laisser personne, même pas votre femme, personne accéder à votre téléphone. C'est votre téléphone. Même si vous n'avez rien à cacher, c'est votre téléphone, c'est vos contacts, c'est vos SMS. Bref, c'est votre vie, c'est à vous, c'est pas aux autres.
Ce sont vos données qui sont dedans, ce sont
vos usages, votre utilisation.
Quelqu'un récupère votre téléphone, de mal intentionné récupère votre téléphone, déverrouillé, il peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, voire même plus que sur votre ordinateur, je pense.
Oui.
Parce qu'il a accès à vos réseaux sociaux, il a accès à plein de trucs, donc il peut savoir qui vous êtes, il peut profiler, il peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc, quand on dit laisser personne accéder à votre téléphone, si vous laissez votre code d'accès, alors déjà sécurisé avec un code d'accès, un vrai code d'accès, pas un 000 ou un 234. Deuxième chose, quand vous déverrouillez votre téléphone dans une salle publique ou dans un lieu public, faites-le de manière un peu plus discrète. Regardez autour de vous, vous allez voir le nombre de personnes qui déverrouillent et vous regardez, vous avez le code.
Donc, il y avait un chanteur célèbre qui avait fait 000000.
Ouais, chez Trump. Mais vous regardez dans un lieu public des gens qui déverrouillent leur téléphone, vous voyez le code ou le mot de passe, vous le déverrouillez, quelqu'un à ce moment-là, si vous voyez le code, quelqu'un d'autre peut le voir, et quelqu'un de mal intentionné va le voler à ce moment-là, vol à l'arraché, comme ça il sera déverrouillé, il aura vu le code, ou le volera derrière. Bref, soyez quand même un peu discret là-dessus. C'est pour ça que les même si c'est gadget, mais les histoires de déverrouillage avec l'empreinte digitale, c'est nickel, parce que là-dessus, il n'y a pas de code. Donc personne ne peut vous piquer votre code. Donc ça, c'est important. Verrouiller avec un code, donc un vrai code, et soyez discret quand vous le déverrouillez, sans être parano, surtout dans les lieux publics. Et si vous laissez le code à votre conjoint, conjointe ou quelqu'un de proche, faites-le en connaissance de cause et dites-vous que le jour où, il faudra peut-être changer le code.
Voilà. Non, changez-le tout de suite, le code.
Mais c'est vrai que moi, personne n'a mon code. Effectivement.
Bah, surtout que le téléphone devient plus qu'un outil de communication et de stockage d'informations. Ça devient aussi un moyen de paiement. Ça, voilà.
Exactement. C'est justement, par rapport au moyen de paiement, ça marche avec quoi, ça? Avec du NFC.
Ah, c'est le NFC, exactement. Et on m'a dit, mais t'es fou, tu utilises un téléphone pour payer en sans contact. Et si quelqu'un s'approche avec une antenne frauduleuse, il peut te choper le numéro. Oui, sauf que ben justement, le moyen le plus simple de ne pas se faire pirater une carte sans contact, c'est de couper l'antenne. Et ben, sur un téléphone, c'est pareil. Alors, ne démontez pas le téléphone. Vous avez une touche magique qui s'appelle NFC. Et en cliquant dessus, paf, ça éteint le NFC. Voilà. Non, c'est... Voilà, il faut désactiver les moyens de communication quand vous ne les utilisez pas. Bluetooth, NFC, etc. Parce que d'autres périphériques peuvent se connecter dessus et faire des choses que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse.
Ah si, une chose importante qu'on n'a pas notée, c'est également les accès dans Wi-Fi.
Alors, j'y ai pensé quand on a fait le conducteur, le Wi-Fi. Alors, le Wi-Fi, oui, tu peux te connecter aux antennes que tu connais, mais malheureusement, quelqu'un peut se faire passer
exactement
aussi pour cette antenne.
C'est exactement ça, c'est ça que je pensais. C'est dans un...
Et qu'est-ce qui peut se passer? Et qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là?
Bah, en fait, plutôt que penser qu'on se connecte au Wi-Fi pour aller sur Internet, on se connecte en fait sur un ordinateur qui se fait passer pour le Wi-Fi d'Internet et qui va récupérer toutes les données dedans, non?
C'est ça, exact. Alors, ce n'est pas récupérer les données, c'est récupérer, sniffer toutes les communications. Imaginons, vous êtes au McDo, vous voulez vous connecter au Wi-Fi gratuit du McDo. Donc, vous cherchez le réseau McDo et vous vous connectez dessus. Sauf que pas de bol, c'est l'ordinateur qui est juste à côté de vous, que vous n'avez pas vu, qui fait office.
Et qui s'appelle Wi-Fi McDo.
Et qui s'appelle Wi-Fi McDo. Donc, vous vous connectez dessus, vous arrivez à checker vos mails, etc. Alors, vos mails qui sont en clair, vous... dialoguer sur Facebook qui est en clair, etc. Vous faites même une conversation privée avec un copain et puis vous demandez, en fait, j'ai vu ça, tu peux me prêter ton numéro de carte bleue, et puis vous lui envoyez par message privé, mais qui est passé en clair via l'ordinateur qui est à côté, qui sert d'antenne Wi-Fi.
Et là, c'est bingo.
C'est ça.
Donc attention au Wi-Fi public. Dans la mesure du possible, utilisez-le uniquement pour aller surfer sur Internet et pas pour de mails et pas pour des choses comme ça. Sinon, après, vous avez votre 4G, tout ce qu'il faut bien.
C'est ça.
Parfait. On va rester sur le téléphone avec une petite actu que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. Alors même si c'était pas prévu qu'on fasse de l'actu, mais c'est pas grave. Les câbles de rechargement. Quelque chose que je ne m'étais pas imaginé. Aujourd'hui, le câble de rechargement, on a tous des câbles pour recharger notre téléphone. Et puis souvent, on a ce câble, on l'a oublié. Donc on demande à un collègue, à un ami, à quelqu'un, vous n'auriez pas un câble pour me dépanner, juste pour que je recharge mon téléphone pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et il s'avère qu'il y a eu des câbles piratés, donc c'est pour des iPhones, mais bon, ça, on peut faire la même également pour Android, hein, il n'y a pas de raison. Le principe étant que lorsque vous branchiez ce câble entre votre ordinateur et votre iPhone, en fait, ça allait siphonner le contenu de l'ordinateur et ça le renvoyait dans le câble, il y avait une petite puce Wi-Fi et qui le renvoyait à un ordinateur qui devait être à proximité, enfin, quand je dis à proximité, pas collé à personne, mais dans un entourage de quelques dizaines de mètres, et qu'elle ait récupéré les données de votre ordinateur.
D'ailleurs, ça me rappelle une excellente émission qui s'appelle Burger Tech, et puis surtout un intervenant, je crois, qui s'appelait Cédric, qui disait « Attention aux prises USB qu'il peut y avoir dans les bus ou dans les restaurants rapides pour recharger votre téléphone. »
C'est vrai. C'est vrai.
Et ben voilà, la boucle est bouclée.
La boucle est bouclée. Mais ça, j'ai pas pensé, mais t'as raison. Mais j'étais étonné par rapport à ça. Donc, câble de rechargement, comme le reste, c'est votre câble, vous ne le prêtez pas. Enfin, vous pouvez le prêter si vous voulez. Ceci dit, si vous le prêtez, êtes sûr qu'on vous rend le bon.
Reprenez-le pas. Allez acheter un nouveau.
Non, mais bon, après, il ne faut pas non plus être paranoïaque. Vous pouvez prêter votre câble à un ami ou un collègue ou de la famille, mais enfin, dans le lieu public. Bref. Donc, attention quand même un petit peu par rapport à tout ça. Ok, donc pour résumer un petit peu tout ce contenu, on va, Cédric a proposé qu'on fasse un récap sur les moyens de protection, tout simplement. Des différents types de choses qui peuvent vous arriver, donc le vol de données au niveau des risques, blocage de l'ordinateur, l'usurpation d'identité, le détournement de fonds, l'utilisation de l'outil informatique par des pirates. Donc en fait, quels moyens de protection peut-on utiliser ? Alors Cédric, pour les vols de données, qu'est-ce que tu préconises de faire pour éviter le vol de données ?
Alors oui, à mon niveau, l'analyse, lorsqu'on veut vous voler des données, c'est qu'on veut accéder à votre ordinateur. Donc pour éviter qu'on accède à votre ordinateur, le meilleur moyen, c'est de mettre un pare-feu. Ça évite que les gens, depuis Internet, accèdent sur des ports dérobés sur l'ordinateur. Ensuite, il faut éviter également de mettre des clés USB, parce que certaines clés USB, dont vous ne savez pas d'où elles proviennent, il peut y avoir des programmes également qui vont aller siphonner les informations et les envoyer aussi sur Internet. Attention à ne pas confondre, un pare-feu, ça bloque les connexions qui viennent d'Internet vers l'ordinateur. Ça ne fait pas l'inverse. Donc si un programme malveillant est stocké dans la clé USB, ça peut récupérer les données et les envoyer vers un serveur sur Internet. Pour contrer le vol de données, il faut également vérifier à ne pas télécharger n'importe quel programme qui pourrait, pareil, récupérer vos données et les envoyer vers un serveur. Et
utiliser un
mot de passe principal.
Mettre un mot de passe principal sur votre ordinateur, tout simplement. Parce que si vous n'êtes pas
devant l'ordinateur... Et oui, pour éviter que n'importe qui...
Exactement.
Voilà, pour éviter que votre fille ou votre fils vienne sur votre ordinateur et envoie les données sur Internet. Voilà.
Tout simplement. Très bien. Après, il y a peut-être d'autres choses aussi, mais c'est un peu un petit résumé par notre niveau par rapport à ça. Ok, au niveau du blocage de l'ordinateur. Donc, le blocage de l'ordinateur, c'est quoi ? C'est qu'un jour, vous vous retrouvez avec votre ordinateur qui soit inutilisable, avec un message dessus qui vous dit, voilà, si vous voulez continuer à utiliser votre ordinateur, il va falloir nous envoyer des bitcoins à telle adresse et on vous le débloquera. Sinon, tout ce qui est dedans, c'est perdu, c'est inaccessible et c'est perdu, ce qu'on appelle le cryptage, chiffrement. Effacement éventuellement, etc. Alors pour éviter ça, qu'est-ce qu'on évite ?
Le blocage de l'ordinateur, ça vient d'un programme. Donc on évite les clés USB, on évite les virus qui sont dans les programmes téléchargés ou qui sont présents également dans les mails frauduleux.
Très bien. Tout ce qui est usurpation d'identité.
L'usurpation d'identité, c'est lorsqu'on laisse ses informations personnelles, notamment nom, prénom, sécu, adresse, etc. Donc, on évite tous les messages douteux dans les mails. On évite aussi de poster ses informations personnelles dans des messages sur les réseaux sociaux et sur les sites internet douteux qui vous demandent ces informations sans aucune raison.
D'accord, très bien. Pour tout ce qui est détournement de fonds,
détournement de fonds, donc c'est vol d'argent sur compte bancaire. Donc il faut éviter les transferts douteux. Les transferts douteux, c'est l'utilisation de votre numéro de carte bleue. Donc il faut éviter les sites internet malicieux. Donc le canavère, les sites, il faut utiliser les sites reconnus, utiliser des intermédiaires comme PayPal. Évitez toujours les mails qui vous demandent des informations bancaires sans aucune raison. De toute façon, il n'y a jamais de raison pour vous donner des informations bancaires.
Non, jamais, ouais.
Donc,
ouais.
Voilà.
Ok. Et l'utilisation de l'outil informatique par les pirates, bon, c'est un peu comme le blocage de l'ordinateur. C'est-à-dire que là, ils ne bloquent pas l'ordinateur, mais ils vont l'utiliser pour faire d'autres choses sans que vous le voyez directement.
Donc, ça fait référence aux IoT, aux ordinateurs également. Évitez, donc mettez toujours un pare-feu. Alors sur les IoT, c'est un peu plus compliqué, mais je pense à ceux qui ont des NAS ou des petits serveurs qui font de la domotique. Évitez qu'ils soient directement la cible de votre box en DMZ. Je m'explique. Dans votre box, si vous voulez depuis l'extérieur accéder à votre NAS, vous dites à votre box, l'adresse DMZ, c'est celle-ci et c'est l'adresse de votre NAS. Et là, en fait, vous court-circuitez le pare-feu. Et donc, ça veut dire que les pirates depuis l'extérieur peuvent accéder directement à votre NAS. Donc, un pare-feu éviterait ce genre de connexion frauduleuse. Évitez de nouveau les programmes téléchargés qui peuvent également ouvrir des ports de connexion ou ouvrir une porte carrément en allant sur un serveur en disant « Toc, toc, c'est bon, je suis actif, tu peux venir me voir. » Ou également des mails qui sont vecteurs de programmes frauduleux.
Parfait. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour quand même des bases de cette fameuse sécurité informatique pour tout le monde. dans notre usage quotidien. Je pense que, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, Cédric, c'est déjà pas mal.
Moi, c'est déjà pas mal, c'est déjà conséquent. Il y a des trucs qui peuvent vous paraître parano, mais la sécurité, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu de paranoïa.
Dites-vous bien que le jour où vous avez perdu des trucs, eh ben, c'est trop tard.
C'est trop tard, oui. Il ne faut pas dire « Ah oui, il faudrait que je fasse ça ». Non, parce que, voilà, c'est fini.
Exactement. Ben, parfait. Ce quatrième numéro de Coticast, la grosse émission, se termine. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que la sécurité informatique n'a plus de secret pour vous. Cédric, je te remercie de ta présence et de ta participation très active pour cet épisode de podcast.
Merci. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué. Puis pourquoi pas, n'hésitez pas à repasser une deuxième fois l'émission pour tout comprendre.
Exactement. Et puis si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à contacter Cédric sur Twitter. @gside_fr.
Alors, le underscore, c'est celui qui est sous le chiffre 8.
Oui, sur un Mac, c'est pas au même endroit.
C'est le clavier.
On va dire le tiré du bas. Et si vous souhaitez me contacter, eh ben sur Twitter, c'est Gaëtan The Geek, en remplaçant le E de Gaëtan par un 3, ou sur le site cotigeek.fr. Nous vous remercions de nous avoir écoutés, puis on dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut!
Merci Gaëtan, salut.
Salut Cédric.